Oui, c'est vrai, comme vous avez faim et soif, on va entamer le débat.
En fait, c'est la liste des films immédiatement. De 68 à 75.
Immédiatement. Alors, vous avez vu, je pense que, comme nous tous, vous êtes restés un petit peu bouche bée devant ce documentaire et ce que cela aurait pu être. Alors, je ne sais pas, pour commencer, l'un d'entre vous pourrait peut-être replacer un petit peu Jodorowsky dans l'univers cinématographique, etc. On en parle un petit peu, mais indiquer un peu plus ce qu'il est, d'où il vient, etc. Et puis aussi en ce qui concerne Dune, bon, je pense que tout le monde a lu Dune, mais là, Laurent Genefort pourra peut-être le replacer un peu dans ses univers divers.
On commence par Jodorowsky ou par Dune?
Bah, alors, peut-être les rapports de l'œuvre, de ce que devait être Dune de Jodo, on peut en parler peut-être par rapport, par exemple, quand on évoquera le Dune de Lynch,
oui.
Et comparer les deux finalement, et de montrer que. Et puis aussi de voir en fait quel est le. C'est quoi une adaptation en fait? C'est quoi une adaptation? Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il faut être fidèle à l'œuvre? Est-ce que. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une adaptation? Mais cela dit, moi j'ai trouvé le documentaire quand même assez complet sur le parcours près d'une de Jodo. Moi ça m'a l'air, je vois pas tellement, je connais pas d'ailleurs assez le personnage pour en rajouter.
Est-ce qu'on peut rajouter peut-être effectivement ce qu'on sait que c'est. Vous avez vu des images, on voit bien qu'il y a des images qui ne correspondent pas du tout à, par exemple, ce que peut attendre Walt Disney. Je veux dire, aller voir Walt Disney avec des images comme ça, ça paraît un peu étrange, connaissant les patrons de studios. Et donc, ce que simplement remplacer, donc la carrière théâtrale est évoquée avec des films, avec des pièces de théâtre donc d'avant-garde, dont certaines comme Fando Willis ont été portées à l'écran. Et donc, et qui ont été effectivement, qui ont fait scandale déjà. Donc, il y avait une réputation sulfureuse de scandale déjà. Bon, ce qu'il faut rajouter, que ce n'est pas indiqué dans le film, c'est le fait que Jodorowsky est parti d'un mouvement important, disons lié à la mouvance surréaliste au sens large du terme, c'est-à-dire le mouvement panique, dont fait partie aussi Fernando Arrabal, qui avait fait aussi Gérer comme un cheval fou après, dans les années 70 aussi. Et donc, effectivement, tout l'excès qu'on peut trouver à tous les niveaux, effectivement, dans le domaine de la sexualité, mais aussi, on va dire, de toutes les formes de subversion du discours religieux, par exemple, d'un caractère totalement sacrilège. On peut imaginer que les producteurs ont dû les cheveux se dresser sur leur tête quand ils ont vu des images de L'El Topo, par exemple, ou Santa Sangre, dont il n'est pas question, je crois pas, en tout cas, il est à peine évoqué. Et puis, bien sûr, La Montagne Sacrée, qui est un film complètement hallucinant. Vous avez vu, par exemple, la multiplication des figures de Christ qu'on voit dans le film, etc. Donc, voilà, déjà, le fait de penser que Jodorowsky pouvait avoir une chance de convaincre un producteur chez Disney, déjà, c'est problématique. Après, il y a aussi son casting, qui était à la fois, évidemment, des personnages très connus dans leur domaine, mais qui n'étaient pas forcément des meilleurs acteurs pour interpréter les rôles. Donc ça, on y reviendra peut-être plus tard. Voilà, je te prends le débat.
Autant Jodorowsky, il pouvait intéresser les studios parce qu'il avait fait des succès.
Ah oui,
c'est et les Américains, ils ont cette capacité à intégrer un réalisateur qu'ils ne connaissent pas. Il faut pas croire du tout que les producteurs américains sont des amoureux du cinéma. C'est des amoureux de chiffres. Et Jodorowsky, il était connu pour multiplier, pour faire des films avec des budgets très faibles et faire 100 fois la mise. Donc c'était a priori un bon candidat. Je pense qu'il aurait... surtout pas fallu que les producteurs regardent un de ces films, quel qu'il soit. C'était des films blasphématoires, avec du sexe partout, de la subversion partout, absolument l'inverse de tout ce qu'un studio... Enfin, je pense qu'ils avaient vu la montagne magique, ils seraient sortis au milieu du film en vomissant, quoi, parce que c'était aux antipodes de toutes leurs valeurs et de tout... Et même, j'allais dire... c'est des films qui... Enfin, là, c'est très bien expliqué. Son but, c'est de prendre des risques. Et c'est absolument l'inverse d'un studio américain dont le but, c'est de ne prendre aucun risque. Donc, de toute façon, on était dans une sorte de contresens total par rapport à certaines industries. Mais je vais quand même moduler parce qu'on a l'impression que... du coup, je garde le truc.
Et je vais là.
On a l'impression que le... que le dans le film que il y avait rien en fait en dehors du film ça décontextualise. Mais en fait le film il est arrivé dans un contexte favorable pour ce genre de film en réalité. Et les années 70 c'est des années spéciales pour le cinéma d'une manière générale. Les anciens codes s'effondrent, les majors cherchent des nouvelles voies. Et ils ont une sorte de département de recherche et développement et de producteurs qui sont spécialisés dans la découverte de nouvelles voies. Et Silent Running, par exemple, ça fait partie d'une sorte de recherche et développement où on laisse totalement faire un réalisateur. Et donc, avec cette chose-là, avec le Dune de Jodot, ce serait peut-être rentré par cette porte-là. Où il aurait inauguré peut-être une espèce de chapitre, de nouveau chapitre dans l'histoire du cinéma américain qui aurait été à la fois un film expérimental et grand public. Mais c'était une époque où on pouvait espérer que ça pouvait exister, en fait, ce truc-là. Clairement, Jodo, il était, à mon avis, trop extrême, tout simplement, pour rentrer dans un... C'est un rond qui essaye de rentrer dans un machin carré.
Bah déjà avec la volonté de faire un film qui dépassait très largement les normes les plus extrêmes d'Hollywood en termes de durée, c'est-à-dire vous voulez faire un film comme il dit d'une dizaine d'heures. Bon, déjà la première chose aurait été de mettre au point la durée maximum par rapport au studio, parce qu'évidemment venir avec un projet comme ça, même bon, les Américains ont fait, Hollywood a fait des films de 3 heures, mais c'est quand même ça dépasse jamais ça. Donc 10 heures c'était largement au-delà de ce qui se faisait à l'époque.
Mais on pouvait dire en même temps que les contrats à l'époque étaient faits de telle sorte que les producteurs pouvaient virer un réalisateur et ne se gênaient pas pour le faire, faisaient leur propre montage pour que ça tienne dans les heures ou virer les trucs qui les gênaient idéologiquement. Donc ce qu'on aurait vu à la sortie aurait été sans doute très différent de ce qui était montré là en fait.
Bien sûr.
Mais on aurait eu quelque chose qui aurait probablement changé l'histoire du cinéma de SF, je pense. Ce que je voulais dire, c'est dans la contextualisation, je me suis demandé, ça arrivait dans quoi ? Dans quel état du cinéma de SF ? Et j'ai cherché le nombre de films mémorables, simplement de la période 1968-1975. 15-16, c'est le moment où le film aurait été produit. Et en fait, je pensais en trouver 4-5, quoi. Si on pouvait en croire ce qui était en filigrane. Et j'en ai trouvé 18, sans beaucoup chercher. Donc de 2001 et La planète des singes en 68. Alors je ne vais pas les faire de façon chronologique. Alors je ne mettrai pas dedans ni Astro Zombie, ni Ne jouez pas avec les Martiens. Mais là je parle des bons. Mais rien que... Alors je vais vous le citer dans le désordre chronologiquement. L'homme tatoué. Avec Rod Steiger, qui est donc l'adaptation de L'homme illustré de Ray Bradbury. Je t'aime d'Alain René, 68. Oui. Abattoir 5, tiré du bouquin de Kurt Vonnegut, 72. L'âge de cristal, 76. Alors là, on atteint un peu les limites du bon goût. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant.
Le courant dystopique.
Le courant dystopique. Les décimales du futur, qui est une adaptation, donc The Final Program, une adaptation de Moorcock, qui est excellent film, de 73. Les femmes de Stepford, toujours de 73. Donc je parle du premier, et il y a eu une sorte de version comédie qui est excellente aussi. Mais là, celui de c'est un des premiers films dickiens, authentiquement dickiens, pour moi. L'homme qui venait d'ailleurs, donc à la fin de cette période, en 76, avec David Bowie, qui est un film qui à la fois... moi, je pense qu'il est globalement sous-estimé à cause de sa taille, du côté parfois un peu ampoulé qu'on lui a reproché, mais ça fait partie des grands films de SF de cette décennie, à mon avis. C'est pas fini. Orange Mécanique, de Kubrick, qui est tellement spécial qu'on oublie que c'est de la SF et de la pure SF. Phase 4, qui est une série B avec des moyens parfois proches de la série Z, mais qui est un film qu'il faut le voir, à mon avis. Rollerball, qui est un film qui dépasse largement son sujet et qui dépeint une société future tout entière. C'est un film pour moi, c'est un film qui est aussi important que Soleil Vert, qui date de 73. Silent Running, qui est un film donc expérimentale, de 60, produit en 71 quand même. Et quand on pense à, enfin, voir Silent Running et se dire qu'il date de 71, c'est incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Mais il a beaucoup vieilli, hein. C'était un film incroyable. Solaris de Tarkovsky en 72. Le survivant Megaman, même si pour moi c'est un quasi nanar au niveau du scénario, la première demi-heure est absolument géniale. Et il faut voir ce film rien que pour la première demi-heure. La première demi-heure est un grand film. Non, mais je rigole pas, c'est vrai. C'est une photo hallucinante, l'acteur était au sommet de sa forme, enfin vraiment c'est une première demi-heure avec un charisme incroyable et une vision de New York déserte que j'avais, enfin qui m'est restée 40 ans après quoi. THX 1138 de Lucas, qui est un tout petit film, hein, c'était un moyen métrage étudiant.
C'est un film de fin d'études à
l'époque. Voilà, exactement, c'est un film de fin d'études. Quand il a vu qu'il y avait personne dans les salles, il s'est dit plus jamais ça, et au final, ça donnait Star Wars. Enfin, je veux dire, il a viré vers Star Wars, mais à la base, c'était un échec commercial. Mais le film est super intéressant, quoi. Et puis enfin, Zardoz de 74. Mais il ne faut pas s'arrêter à Sean Connery en slip. En dehors de ça, c'est un film qui reste pour certaines scènes incroyablement puissant. Et on sait tous ceux qui sont amateurs de films de SF savent très bien qu'un film, c'est pas un scénario, ce sont des scènes qui restent gravées dans la mémoire. Et dans Zardoz, il y a deux ou trois scènes qui restent gravées dans la mémoire collective du cinéma de SF. Donc c'est un grand film. Zardoz est un grand film. Voilà. Donc rien que ça fait une vingtaine de films. Et donc, le cinéma de SF, il était ambitieux, il était fait par des grands réalisateurs. Il y avait Schaffner, il y avait de grands réalisateurs, quoi. Et les meilleurs du monde. Kubrick, c'est le plus grand réalisateur du monde. Désolé pour Jodorowsky.
Juste une chose, pour rajouter aussi le remake de l'invasion des profanateurs de sépulture de Philip Kaufman, qui est aussi un grand film de l'époque. Et puis simplement pour dire qu'effectivement, pour en rajouter par rapport au contexte, le seul film qui est cité par Jodorowsky dans le film antérieur, c'est effectivement 2000 ans d'Odyssée de l'espace, parce que celui-là il est incontournable. Mais tout le reste est complètement occulté, donc c'est tout à fait français. Et Dark Star de Carpenter aussi, effectivement.
D'accord. Oui, effectivement, bon, mais c'est normal, puisque Jodorowsky, lui, ne fait pas du cinéma, il fait un film qui va porter la conscience, éveiller la conscience de l'humanité à l'étape supérieure. Donc, on n'est plus dans les vulgaires considérations bassement matérielles.
Non, parce qu'il parle de guerriers spirituels.
Voilà, ce sont les guerriers spirituels, sauf que ça ne l'empêche pas d'avoir une grosse liasse de billes dans la poche. Bon, parce qu'il faut quand même... Les gourous doivent vivre.
C'est pas comme Gainsbourg, il ne le brûle pas.
Voilà, il ne le brûle pas, il le rempoche. Il y a aussi... Alors, c'est vrai, là, avec Laurent vient de citer un certain nombre de films, on s'aperçoit qu'on est débordant de créativité, d'inventivité. Il y a quand même une chose qui est très frappante dans le film, et là, je vais peut-être me tourner vers Pierre Gélard, c'est de voir cet énorme storyboard. On a tous vu, on sait tous qu'il y a des storyboards, on a même vu ceux de Star Wars, il y a pas d'exposition, mais alors là, avec Jodorowsky pour Dune, on passe là aussi à l'échelle supérieure. Pierre, peut-être.
Sur ce storyboard, oui, qui est un monument en lui-même, mais d'une façon générale, sur la manière dont ça se passe, parce que c'est une histoire en soi, ce film, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a un excellent documentaire, tout se passe finalement comme si Jodorowsky, en fait, organisait cet échec, parce que quand même derrière l'échec, derrière les 5 millions de dollars qui manquent, il y en a quand même 10 qui ont été trouvés. Donc il y a des gens qui y ont. Et très franchement, je pense que quand il y a les 10, on est presque aux 15. Mais là, l'épisode, alors il en rajoute peut-être quand il dit 12 ou 20 heures, mais l'épisode où il dit, mais enfin, la durée, ça n'a pas de sens, mais moi je prends Dali à 100 000 euros la minute, etc. Tout se passe comme s'il organisait sa chute et son échec. Et en fait, ce n'est pas un échec, parce qu'après ça va exploser d'une tas d'autres manières, mais on peut se demander si quelque part Jodorowsky s'est pas dit tout ce que j'ai envie d'y mettre aujourd'hui, ça va pas le faire. et on se posera la question peut-être tout à l'heure, moi personnellement je pense que ça n'aurait pas été un grand film, mais parce que il y a beaucoup trop d'attentes, beaucoup de, trop de choses à y mettre, et donc cette organisation, pour autant il ne veut pas que tout cela soit perdu, et le fait qu'il y ait un storyboard qui soit en lui-même une œuvre et qui, aujourd'hui, puisse donner éventuellement, avec les capacités techniques aujourd'hui, un film en animation, montre bien qu'il souhaite, d'une certaine manière, qu'il avait prévu que ça n'irait pas plus loin, et qu'il souhaitait absolument pouvoir laisser une trace, et pouvoir féconder, comme il le dit, féconder l'esprit, l'idée. Et c'est vrai qu'on voit apparaître, alors tout n'apparaît pas dedans, tout n'est pas sorti du, j'allais dire de la cuisse, mais du cerveau de Jodorowsky. Mais bon, il y a un certain nombre de topics, du, non seulement du cinéma, mais de la science-fiction, qui sont là et qui vont s'imposer, qui vont revenir par la suite. Et ce storyboard, c'est ça un peu qui m'évoque. Tout se passe comme si le but, ça avait été de sortir ce storyboard. Et d'en faire un objet mythique, parce que c'est pas un objet qu'on va trouver partout. Il va courir quelque part. Et donc, il va être... Vos enchères, il prendrait très beaucoup. Oui. Je crois pas qu'on soit en capacité ici. c'est un objet qui, effectivement, a sa vie mythique. Et là, on trouve aussi, je reviens à l'origine des choses, tout à l'heure, je crois que c'est toi, Laurent, tu disais « Tout le monde a lu Dune ». Bah, dans le film, non. Hein. Dans le film, bon, c'est quand même extraordinaire. Si c'était un film comique, ce serait un redémarrage. À chaque fois, au début, Jodo dit bah, « J'ai pas lu, j'ai dit Dune, je sais pas pourquoi ». Bon. Et c'est pas vrai, il en rajoute. Ouais. Mais, et à chaque fois, les gens disent « j'ai pas lu Dune ». Comme si Dune, finalement, ça devait être d'abord une idée de film, une idée de transformation, et pas quelque chose de précis.
C'est aussi dans l'air du temps d'une. Enfin, je veux dire, il a choisi Dune parce que ça correspondait à ce qu'il voulait faire. C'est justement un film qui traite de métaphysique, de mystique, de l'ouverture à l'esprit par des drogues. Bon, le thème de l'épice est quand même tout à fait. Donc tout ça rentre. Je crois que c'est un truc. Tout ça rentre dans l'air du temps. Donc il a choisi ça aussi parce que c'est un roman culte et parce que ça correspond à ses propres préoccupations. Enfin, même s'il n'a pas lu, bon, forcément, il a lu après.
Non mais il a lu, mais il a fait comme n'importe quel réalisateur doit faire, c'est-à-dire prendre une matière brute, oui, et puis la remodeler, remachiner, prendre la statuette anglaise, l'écraser complètement et refaire son truc. Alors ça n'aurait pas été herbertien du tout, ça aurait même été anti-herbertien, puisque Frank Herbert dénonce le messianisme et considère que c'est une construction humaine et même une manipulation humaine. Donc c'est absolument l'inverse, on est à l'opposé, c'est-à-dire c'est un messie programmé, Paul. Là, ce n'est pas un messie programmé, c'est un messie tout court. Donc il a pris dans absolument le premier degré, mais il a pris en même temps ce pourquoi Dune, le roman, a été un succès. Il y a un contresens à la base du succès de Dune. C'est qu'un certain nombre de lecteurs ont pris Paul pour un véritable messie. Donc, au premier degré, parce qu'il y a ce côté épique malgré soi, c'est-à-dire que c'est tellement réussi que Herbert, tout en dénonçant, a finalement validé l'aspect messianique de Paul. Et là, c'est là où il y a à la fois une convergence et une divergence. Et même si le film aurait été aux antipodes de Herbert, et Herbert, j'ai discuté avec quelqu'un qui était présent en 76 quand ils se sont rencontrés, en fait, ou en 75 quand ils se sont rencontrés, Herbert et Jodo.
Parce que n'en parle pas du tout.
Et non, il n'en parle pas. Moi, je lui avais posé la question quand je l'avais eu en face de moi, et il avait éludé, d'ailleurs. Mais ils se sont rencontrés, et Herbert était absolument pas dupe du fait que son bouquin allait être trahi. Il savait comment ça se passe, hein, je pense tout simplement, mais de la même manière qu'il a vaguement opiné à la version de David Lynch, en fait. Mais pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il savait que ce ne serait pas herbertien, parce que les préoccupations de Lynch n'étaient pas les siennes quand il a écrit Dune. Mais à la rigueur, c'est le jeu. À partir du moment où on se fait adapter, on se fait trahir, c'est normal. Et je trouve que Jodorowsky a quand même est très juste quand il dit que peu importe de violer la mariée pourvu que les enfants soient beaux, mais c'est exactement ça. Et toute l'histoire du cinéma, des adaptations de cinéma réussies,
Kubrick.
C'est ça, Kubrick, c'est ça. Et à l'inverse, on voit quand par exemple l'adaptation en mini-série de la mini-série de Dune et des enfants de Dune, c'est quelque chose de très honorable. Et qui colle en fait à globalement, on va dire, mais en tout cas c'est ce qui a été fait de plus près des adaptations, mais ça donne quelque chose de ni bon ni mauvais. Voilà, mais ça c'est le statut même des adaptations que de trahir. Et donc moi personnellement, j'ai pas du tout quand je suis sorti en tant que spectateur, quand je suis sorti du bouquin de Lynch, je l'aurais lynché vraiment volontiers. J'étais extrêmement en colère. J'étais jeune et déjà très con. Et ça m'avait mis en colère parce que je m'étais fait mon propre cinéma dans ma tête. Mais la plupart des gens, comme tu dis, n'ont jamais lu Dune de toute façon, donc ça n'aurait pas été bien grave.
Mais c'est vrai que c'était. Mais on ne veut pas en parler trop longtemps. C'était un sentiment de colère, mais moi j'ai plutôt senti un sentiment de frustration et de trahison quand je suis sorti cette projection.
On va reparler, je pense, du film de Lynch après, mais il faut dire aussi qu'il y a eu d'autres tentatives d'adaptation de Herbert avant Jodorowsky. Herbert lui-même a consacré, je crois, un an et demi à écrire un scénario qui a été finalement jugé trop compliqué. Et le budget était trop élevé déjà. Enfin, donc il y avait déjà toute une série d'avatars ratés avant même celui-là.
Mais là, de toute façon, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Laurent, effectivement, Jodorowsky est très ouvert. Hein. Il dit on adapte, on viole la mariée et comme ça on lui fait des beaux enfants. En même temps, on voit dès le début qu'il projette sa lecture de Dune, c'est celle de ses idées qu'on pourrait qualifier de New Age, qu'il a continué après, qu'on a vu dans l'Incal, mais aussi quand il donnait ses cours de tarot, etc. Donc, de toute façon, manifestement, ça n'est qu'un outil pour lui, pour ses propres idées. Et là, c'est peut-être justement un peu la différence avec le film de David Lynch. On peut revenir dessus si on veut faire la comparaison. Lynch a peut-être été entre guillemets légèrement plus fidèle.
Très légèrement, à mon avis.
Non, moi je crois pas du tout qu'il était fidèle, mais en même temps, c'est compliqué c'est difficile de comparer les deux en réalité, parce que d'un côté on a le projet d'un film totalement artistique, totalement au service d'un créateur, et de l'autre côté, un machin de producteur retaillé dans le gras que Lynch a plus ou moins renié après quand il a dit que c'était une catastrophe, que la réception était catastrophique. Donc c'est un échec, pour moi, hein, c'est un échec cinématographique qui n'a pas été totalement assumé par la suite, même s'il a ses fans, hein, mais...
J'en suis.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, il y a un côté Madeleine de Proust, si on l'a vu, ben voilà, ça, malgré tout, ça nous imprègne. C'est peut-être pour ça que je suis si en colère d'ailleurs. C'est qu'on n'est pas forcément imprégné par des choses qu'on voulait.
Non, mais il y a.
On vient de dire plusieurs fois, en prenant ce que disait Jodo à la fin, violer la mariée pour faire de beaux enfants. Eh bien, c'est pas vrai, il n'a pas dit beau. Il a dit les enfants simplement. Et c'est peut-être ça le problème. Si on prend une autre adaptation bien avant le cinéma, qui est celle du mariage de Figaro en Barbier de Séville, c'est très différent aussi, tout en étant plus ou moins fidèle à la chose. Et ça permet à Mozart de développer une création autonome à partir d'une base. existantes, et à partir du travail d'un autre génie. Mais ce qui prime maintenant, c'est le résultat. Et c'est cela que visait Jodorowsky. Effectivement, j'ai été dans ce documentaire. C'est un truc qui manque. On voit tout le monde et on voit Herbert. Et on n'en parle pas. Et donc, c'est pas par hasard. Le réalisateur ne s'est pas dit à la fin, j'ai oublié de parler d'Herbert. Non, il y a du non-dit là-dedans. Il y a beaucoup de reconstruction. Jodorowsky adapte, en fait, parce que bon, tout c'est hasard, il arrive, et puis par hasard, il y a Mick Jagger, par hasard, il y a Léonard... j'allais dire Léonard de Vinci. Non, il y a Salvador Dali, etc. Bon, en fait, c'est une histoire, c'est une reconstruction, et il se met en scène complètement, et finalement, c'est une production qui, comme... comme une bonne œuvre, dirais-je, met en marche l'imagination hein, et permet de se dire on pourrait imaginer un faux documentaire comme ça, sur autre chose, avec un autre film qui n'aurait jamais existé, mais qui n'aurait jamais commencé. Celui-là, il a commencé à exister, et il n'est pas allé plus loin, et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on a très nettement l'impression que c'est organisé. Comme ça arrive avec ces gens qui se disent « Mais moi, je ferais bien telle chose. » Et puis qui, finalement, vont se mettre tellement de conditions, tellement d'obstacles, qu'à la fin, ça ne va pas marcher. Bon, là où il est beau joueur, c'est qu'il se dit « Bon, maintenant, ça a essaimé. » Il y a eu Lincoln, il y a eu les Métabarons, et il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on va retrouver dans d'autres films, dans Star Wars, etc. Bon, tout ça, c'est de l'essaimage. Il le reconnaît, il n'est pas à se dire « ils sont tous méchants, ils n'ont pas voulu », mais bon, un peu sur les réalisateurs. Mais encore une fois, je pense qu'il n'a pas vraiment, lui, je ne parle pas de Seydoux, mais lui, Jodo, à mon avis, il a rien fait. Il est arrivé en disant attendez, je suis Jodorowsky, vous savez ce que j'ai fait comme film, etc. Eh bien, ne vous attendez pas à ce que je cède en quoi que ce soit et sur quoi que ce soit. Et à partir de là, ça pouvait pas aller jusqu'au bout. Et donc, ça ne pouvait pas rater.
Ouais, je sais pas, enfin c'est plus compliqué. Enfin, il me semble que quand on voit, je ne vais pas insister trop là-dessus, mais quand on voit certaines expressions de Jodorowsky pendant le film, il y a quand même un regret assez profond qu'il exprime, une rancœur, enfin voilà, il exprime à plusieurs reprises quand même sa détestation. Alors évidemment, l'histoire de l'argent, on peut penser ce qu'on veut, donc il se met en scène effectivement. Mais je pense quand même qu'il y a une volonté profonde. Et donc sa revanche a été effectivement d'une part que ces projets ont été cannibalisés et les différents artistes qu'il a lui recrutés ont été récupérés finalement par les studios hollywoodiens, d'une part, et d'autre part que lui-même s'est cannibalisé lui-même en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il a récupéré toutes les images, et il donne plein d'exemples dans ses propres travaux de bande dessinée, de romans graphiques, de bande dessinée, etc. Donc je pense qu'il a une sorte de double revanche à certains égards, mais on sent bien quand même qu'il aurait bien aimé faire ce film, parce que ça aurait été justement un film qui aurait pu changer la science-fiction, et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ça fait partie de ces films, comme certains films de Kubrick qui ne se sont pas faits. Bon, c'est pas pour rien aussi qu'il va chercher Orson Welles, bon, c'est pas seulement à cause du plan séquence de La Soif du Mal. Orson Welles est quand même un des grands génies du cinéma, et c'est pas simplement son embonpoint qui l'intéresse, c'est le fait qu'Orson Welles est aussi l'homme qui n'a pas fait un certain nombre de films importants. Par exemple, l'adaptation du Cœur des Ténèbres de Conrad, pour donner que cet exemple-là. Et Kubrick, c'est exactement pareil, avec son Napoléon et avec d'autres projets qui n'ont pas abouti. Donc il se situe dans une lignée aussi de grands réalisateurs, de grands génies du cinéma qui n'ont pas pu faire les films qu'ils voulaient faire.
Mais, ce que je veux dire, c'est pas que...
Attends.
On passe pour les questions après.
Ouais. Ce que je voulais dire, je te passe après. Ce que je veux dire, c'est pas que consciemment il a saboté son truc pour que ça marche pas. C'est que inconsciemment, il a mis en place tous les moyens pour que ça ne marche pas.
Non, mais je suis d'accord. D'accord.
Inconsciemment.
Je suis d'accord. Mais je crois que il y a une certaine ambivalence de Jodorowsky par rapport à les propos mêmes.
Il y a peut-être une précision plutôt.
Juste sur les images, c'est tellement que. Il est celle dans Alien, vu que c'est Dan O'Malin, qu'il l'a dit, Dan O'Malin l'a dit, il est entre chez les figures et tout ça. Mais sur les autres exemples qu'ils donnent, c'est complètement flattant, parce que sur Star Wars, on ne voit pas beaucoup d'informations.
Sur Flash Gordon.
Non mais justement, j'allais dire, ça aurait pu donner un grand film kitsch aussi, hein, donc oui. Ça c'est la question, voilà, parce que là j'ai l'exemple de Flash Gordon et quand même...
Est-ce qu'il y a vraiment un essaimage flagrant ?
Il y a les vers géants dans Star Wars.
Alors là, Gilles, tu es sans doute le mieux placé pour répondre, parce que effectivement, dans le documentaire, on cite un certain nombre d'exemples, mais alors si on prend une image dans un film de 2 heures... Est-ce qu'on peut ne pas trouver toutes les idées de Jodo dans les 20 années suivantes en prenant une image par film?
On sait que le storyboard en question, là, de 400 pages, a circulé parmi tous les studios, qu'il y avait une copie. Donc, effectivement, ils ont d'abord récupéré des artistes, comme Dan O'Bannon, qui est quand même quelqu'un d'assez important, qui est assez méconnu, finalement, qui a fait une très belle adaptation, je cite au passage, d'un roman de Lovecraft, le cas de Charles Dexter Ward, qui est tout à fait intéressant. Bon, alors, dont les effets spéciaux sont un petit peu dépassés, mais voilà. Et effectivement, peut-être l'influence la plus évidente, c'est, outre la participation de Dan O'Bannon au script d'Alien, c'est l'univers de Giger, effectivement. Alors là aussi, il y a une sorte de paradoxe d'utiliser dans le même film l'univers de Giger, donc avec sa noirceur, son gris, ce côté métallique, etc. Et puis les couleurs de costume de Moebius, effectivement. Et c'est plutôt ça qu'on retrouve dans le Flash Gordon en question. Enfin, quand on voit l'empereur interprété par Dali, on voit très très bien le lien. Là, le lien est assez évident. Et puis il y a effectivement le fameux plan séquence aussi, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de choses, des fragments, soit des éléments formels, soit des éléments thématiques, soit des éléments de costume qu'on retrouve dans le cinéma de science-fiction ultérieur. Mais ça n'a pas profondément marqué, je crois, le cinéma ultérieur, il ne me semble pas. Donc, on ne sait pas si ça aurait été un grand film ou pas. Non, bien sûr.
Tout réalisateur de cinéma va envisager un travelling sur un vaisseau. C'est oui. Pas
mais non, mais de partir de la galaxie entière.
Il voulait faire de...
Ça, c'était quand même nouveau.
Il voulait faire quelque chose d'extrême, en fait.
En passant sur ces détails, il faut parler de la personnalité de Jodorowsky. Ce qui transparaît dans ce film, c'est son côté malsain et la manipulation dont il est capable pour arriver à ses buts. Alors, sous des objectifs New Age, il est capable quand même de contraindre son fils à un entraînement
c'est un peu cette...
Et sa fascination, Pierre, que tu dis par rapport au par rapport au grand réalisateur et à ses autres, c'est simplement leur imposer sa volonté.
Oui, oui, bien sûr.
C'est manipuler. Et l'héritage le plus net de Jodorowsky, on le trouve dans Jodorowsky. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, tout ce qui a vraiment été copié-collé, c'est lui-même qui l'a copié et qui l'a retranscrit dans ses bandes dessinées.
Oui,
et encore aujourd'hui. Et toutes ces bandes dessinées démontrent son côté obscur, qui est celui d'une extrême violence, d'un mépris de l'humanité pour arriver à un but. Dans ses premiers films, c'était aussi latent. Dans Dune, pour moi, c'est évident. Et quand en plus on connaît ses collaborateurs, moi j'ai eu la chance d'être un peu près de Giraud. Giraud était faible et il a été impressionné par Jodorowsky au point d'y faire absolument n'importe quoi. Et il s'est emparé de Giger, qui lui a parfaitement plu, parce que c'était un homme qui représentait la noirceur, le malheur et l'échec humain. Alien, c'est ça. Alien, c'est un être qui a un pouvoir, qui peut absolument tout détruire, et c'est le diable incarné. Donc chez Jodorowsky, il y a un côté esthétique flagrant et qui est absolu, mais il y a un côté noir qui est encore plus grand et dont son principal talent, c'est de le cacher.
Je trouve que son principal talent, c'est de savoir convaincre des gens de grand talent, donc déjà de les repérer. Donc c'est un grand repéreur de talent. Ça aurait été un éditeur extraordinaire. Ça aurait été un éditeur extraordinaire, mais là encore, il fait partie d'une longue tradition de réalisateurs, manipulateurs,
oui,
d'acteurs. Ça n'aurait pas été le premier. Hein. Et en fait, quand on voit qui s'est adjoint en BD, Moebius, pour moi, c'est le plus grand dessinateur de tous les temps, avec Hergé. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le plus grand quoi, de la fin du XXe siècle. Voilà, il avait ce talent-là, et puis arriver à repérer Giger, c'est fort quand même à l'époque.
Je trouve enfin, voilà, c'est, il a, via Dali quand même.
Il avait cette espèce de porosité à ce qui était nouveau et à se les approprier. Moi, j'étais à l'avant-première de ce film-là, et donc j'étais dans la salle où il y avait Jodo qui il ne le présentait pas, mais il répondait aux questions après. C'était impressionnant de voir, moi je lui ai posé une question, la question qu'il avait éludée justement sur Franck Herbert. J'avais repéré qu'il était absent. Et il était tout aussi absent de la réponse, c'était intéressant. C'était intéressant de voir, il y avait une ou deux questions aussi qui n'étaient pas dans le field, qui n'abondaient pas dans le sens du documentaire. Et c'est intéressant de voir, même comme la salle était pas hostile, mais n'accrochait pas justement à ces questions. C'est intéressant. Donc, Jodorowsky, il a cet effet de mâle alpha intellectuel, donc de gourou, en fait. Hein. C'est pas autre chose qui gauchit l'espace intellectuel autour de lui. Quoi. Et il faut lui reconnaître cette espèce de force incroyable de d'orateur, enfin de. Donc je comprends que effectivement j'ai aussi pratiqué Moebius. Effectivement, il est extrêmement malléable et donc ça m'étonne pas non plus qu'il soit Moebius qui a été lui-même dans une secte, qui a été happé dans une véritable secte.
Quand il s'en est dégagé, son œuvre s'est transformée sur la fin de sa vie. Oui. S'est dégagé de l'influence.
Oui, je crois qu'il y a une question de Franck.
Oui, c'était juste pour revenir à ce documentaire. À la fin, sur les filiations du film et les influences, ça mélange des choses spéculatives, effectivement, comme Star Wars, des choses très intéressantes comme Alien, puis Blade Runner et les influences. Mais par exemple, pour reprendre ça, le conséquence de Contact, sur Contact, il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur le film, et l'idée derrière ce conséquence, c'était de reprendre un film qui tournait à la cité des sciences, qui arrive aussi, qui était des ordres de grandeur,
oui, c'est ça.
Par des atomes de la main, etc. Et ils ont voulu faire ça avec les moyens cinématographiques. Donc c'était ça l'inspiration sur Contact. Et après, le fait de partir dans le plan du système solaire, de croiser la ceinture d'astéroïdes, c'est une conséquence logique d'imaginer ce processus-là. Donc là, il y a des choses qui sont forcément des convergences quand on pense à ce type de conséquences. Il y a des spéculations comme Star Wars, sincèrement montrer des gens qui se battent à l'épée et après montrer des gens des sabres laser, bon, c'est sûr qu'on va trouver dedans. Après, il me semble que la filiation alien, Blade Runner, aller jusqu'à Gibson qui a été influencé par Blade Runner, ça me semble plus intéressant, ça aurait peut-être été intéressant de développer. Je voulais justement avoir votre avis sur est-ce que cette filiation-là, elle vous semble aussi claire que ça?
Je ne sais pas, mais en tout cas, sur le côté guerrier mystique qu'il y a dans Star Wars, moi je la vois, la filiation quand même. Hein. D'ailleurs, dans le combat contre un élément mécanique, même si ça existait, hein, c'est un des éléments de d'entraînement des samouraïs, d'être autour d'un pilier avec des trucs qui tournent. Ça existait déjà dans les films des frères Shaw.
Oui.
Avec, voilà, donc c'est pas un élément qu'a inventé. Il l'a science-fictionnalisé, on va dire. Ça, ouais. Mais après tout, c'est aussi ça le génie de SF, hein, c'est d'arriver à gauchir.
Ce que je voulais dire, c'est peut-être qu'on a pour le scientifique, c'est qu'il y a un cas qui est factuel.
Oui, tout à fait, mais je suis d'accord avec toi.
De Giger, de Dan O'Bannon, etc. Et là, c'est vrai que ce sont des gens qui ont beaucoup mieux travaillé. Sur les idées, c'est toujours compliqué de dire
que cette
idée, elle est née ici, elle a été reprise là, c'est beaucoup plus spéculatif.
Gilles, peut-être sur le côté plus spécialement cinématographique de la question de Franck Salsis.
En tout cas, moi, je pense qu'on n'a pas assez parlé, parce que, bon, bien sûr, le débat est pas sur... c'est sur l'adaptation, et on pourrait revenir d'ailleurs là-dessus, sur ce que c'est qu'une adaptation, mais moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est la qualité du film aussi sur le plan formel, justement, face à la mise en scène des storyboards, justement. Je trouve que c'est quand même très réussi, sans parler aussi, bon, de tout le travail de montage, Il y a vraiment un travail de cinéaste très intéressant qui va bien au-delà du documentaire, disons, banal. Et bon, après, il y a évidemment le poids de la présence de Jodorowsky qui se sent à tous les niveaux, qui se met en scène tout le temps, y compris avec son chat d'ailleurs, etc. Voilà. Mais ce que j'ai aimé dans le film, c'est que c'est aussi un vrai film. Voilà, c'est un documentaire, mais c'est aussi un travail d'auteur. Voilà. Ouais. Et donc. Et la question du plan séquence est quand même traitée de manière très, très intelligente.
Pour dire les choses autrement, à la fin, c'est toute cette filiation qu'on voit, c'est tellement fort, parce que presque, ça me met l'arme aux yeux d'imaginer que ce film on a le petit donne tout ça. Je veux juste savoir si je suis manipulé, ou si quelque chose
serait... Il y a une part de manipulation.
Il y a une part de manipulation. Pavitch, enfin, Franck Pavitch, le réalisateur, il s'est impliqué beaucoup dans le film aussi. Ah, oui. Et en fait, le résultat, c'est aussi une auto-persuasion du réalisateur. Oui. Mais enfin, moi personnellement, que ce soit vrai ou pas n'est pas important. C'est un film qui donne la pêche. C'est incroyable. Je regarde ce film, j'ai envie d'écrire un bouquin. C'est une fiction de Franck Pavitch, pas de Jodorowsky. Même si chacun a essayé d'utiliser l'autre, on va dire. Mais voilà, et pour moi, c'est ça qui reste de ce documentaire. Je le trouve vraiment exceptionnel dans la mesure où il fait partie de ces films qui donnent la pêche. Il y en a peu, hein. Il y a Coup de tête de Jean-Jacques Hano. Dès que je le vois, ça me donne envie de. Moi qui déteste le football. Ça fait partie de ces films qui donnent la pêche et à un niveau qui nous concerne, qui est de faire des films ou d'écrire des livres ou de faire des BD, quoi. Rien que pour ça, il devait exister ce film.
Il est plastiquement très réussi aussi.
Ouais.
Moi j'ai été frappé par un petit truc là, à un moment donné, il parle d'immortalité. Je ne peux pas m'empêcher de passer à Kurt Weill. Quand on sait la filiation.
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît?
Je ne peux pas m'empêcher de penser à Kurt Weill. Quand on sait la filiation qu'il y a entre le New Age, les hippies, avec le transhumanisme. Par ça. Je ne sais pas si c'était pertinent, mais ça a été très...
Peut-être.
Cette filiation est très bien décrite par Rémi Soussan dans le post-humain.
Et c'est peut-être ça la force finalement, c'est de pouvoir donner l'impression que tout,
oui.
que tout
ça se rattache à
sort de d'une qui n'a pas existé et qui est un peu. Et quant au réalisateur du documentaire, qui effectivement est un film qui donne envie, qui est tout à fait plaisant, où on oublie que c'est un documentaire encore une fois, ça pourrait être une fiction totale. Ce qui ressort de cela, c'est. Quand même un grand pouvoir de manipulation, comme on l'a dit plusieurs fois, Jodo, et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette manipulation ne s'est pas exercée sur le réalisateur du film qui est consacré à lui.
Pardon.
Non, je l'ai dit.
Je vais passer à autre chose.
Oui, mais parce qu'il y a des questions encore. Mais je voulais dire qu'effectivement, le côté manipulateur, moi, ce que je trouve le plus frappant, c'est après qu'il ait expliqué comment pendant 2 ans, il a soumis son fils à un entraînement épouvantable, 6 heures par jour, 7 jours par semaine, sans interruption, etc. Et à la fin, il est assis à côté de Brandis, ouais. qui est là en adoration manifeste devant son père. Alors je crois que ça ne s'est pas si bien passé entre-temps, mais là, il récupère son fils et dit, vous voyez, j'ai fait un homme de mon fils, il ne m'en veut pas, c'est tout juste s'il ne lui demande pas, est-ce que tu ne me remercies pas pour ce que je t'ai fait. Ça, c'est quand même très frappant. Alors, pour enchaîner, il y avait une question de Jean-Louis Trudel, je crois, d'abord, et ensuite Charles Moreau.
C'était plus un commentaire par rapport à ce que Frank disait, parce que, selon mes souvenirs, William Gibson a dit que lorsqu'il était allé voir Blade Runner pour la première fois, il avait plutôt l'impression que Blade Runner avait pigé des choses dans sa tête, parce qu'il était déjà en train de méditer un peu ce genre d'univers futuriste. Et donc, la filiation, justement, c'était partie des choses vers la fin, c'était une filiation qui me semblait assez abusive, rendue à ce point-là.
OK. Alors, Charles Moreau.
Alors, moi, je me pose une question en voyant ce film, parce que c'est la première fois que je vois un film comme ça, au niveau de la science-fiction, et c'est très intéressant. Mais je me pose la question de savoir si les œuvres, les grandes œuvres de science-fiction, sont faites pour être adaptées au cinéma.
Mon point de vue personnel, extrêmement personnel, Moi, je trouve que ce sont les nouvelles qui font les meilleurs films, et qu'un film de 2 heures, c'est une nouvelle mise en image. Et je trouve qu'un roman devrait... Il n'y a jamais d'obligation à rien. Mais les grands romans s'épanouissent particulièrement bien en mini-série dès lors qu'on y consacre et qu'on investit autant autant d'art que dans un film à grand spectacle. Je pense à Game of Thrones ou ce genre de truc où il y a un investissement artistique aussi grand que dans un film.
Gilles.
Mais c'est mon pur. Mais est-ce qu'il n'a pas empêché des romans entiers de faire des films absolument géniaux, à commencer par Blade Runner, qui est, même si c'est tiré d'une nouvelle, mais enfin je veux dire que le roman est tiré d'une nouvelle, mais c'est quand même l'adaptation d'un roman. Et c'est intéressant. Et d'ailleurs, ça me donne envie d'embrayer très petite parenthèse, justement par rapport aux Dunes de Jodorowsky. Blade Runner n'est pas un film dickien du tout pour moi. C'est un film de Ridley Scott, c'est un film scottien. Mais c'est pas, il n'y a jamais la thématique du surhomme dans l'œuvre de Truc. Il n'y a pas ni les hommes. Il y a cette idée d'homme truqué, mais qui devient presque. Qui s'efface presque devant la figure christique de Roy. Donc ce n'est pas, pour moi, c'est pas un film profondément dickien, et pourtant c'est un des plus grands films de SF jamais fait. Donc on peut faire des beaux enfants, même si on ne reconnaît pas les traits du visage du papa, de la maman.
Gilles.
Oui, parce qu'il a l'habileté d'utiliser là aussi des grands artistes français, notamment dans tout le groupe autour de Métal Hurlant. Hein, donc ça a quand même beaucoup joué pour l'esthétique du film. Oui, effectivement, il n'est pas dickien. Enfin, pour moi, c'est en grande partie, ça a été dit, hein, déjà, une réécriture du mythe de Frankenstein. Ouais, c'est la grande force du film. Non, pour revenir à la question de l'adaptation, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais quand même, Kubrick, pour reprendre son exemple, est quand même un exemple d'un grand réalisateur qui a toujours utilisé des sources extérieures, que ce soit des nouvelles ou des romans, dans tous ses films, quels que soient les genres qu'il ait utilisés. Et souvent, effectivement, en trahissant, en faisant quelque chose de radicalement différent de l'œuvre originale. On sait très bien les rapports très difficiles qu'il a eu avec Stephen King pour The Shining, par exemple. Hein, Stephen King était totalement outré par le film, qui ne respectait absolument aucun de ce qu'il faisait, qui a changé énormément de choses. Il a supprimé, par exemple, l'histoire du labyrinthe végétal. Qui était à l'origine, dans le roman de King, simplement des créatures un peu disneyennes, taillées dans du buis, etc., qui devient un labyrinthe, effectivement, avec une dimension beaucoup plus forte, effectivement. Même chose pour la musique. Bon. Je pense que c'est un bon exemple de quelqu'un qui arrive à faire, alors que ce soit un roman historique comme Barry Lyndon, ou un roman d'horreur contemporaine comme Stephen King, qui arrive à transcender l'original pour faire une œuvre géniale. Et c'est le cas aussi de ce qu'il a fait avec, par exemple, pour Lolita, avec Nabokov. Donc on peut faire un grand film à partir d'un grand roman, effectivement, parfois en oubliant totalement, comme tu viens de dire, l'auteur initial, la source initiale, parfois au contraire en étant en proximité, pas forcément thématique, mais en proximité, disons, avec l'œuvre d'origine. Ce qu'a fait Kubrick, à mon avis, en partie, avec son dernier film, Eyes Wide Shut. Enfin, c'est quand même relativement proche, l'univers de Schindler, même s'il a impliqué sa marque. Donc voilà, je crois qu'il y a les deux cas. Et puis effectivement, il y a à l'inverse des films qui sont larges, enfin, qui n'arrivent pas à rendre compte de la complexité d'un roman, et c'est sans doute le cas pour le film pour Franck Herbert.
Alors Pierre Gévard, conclue, je termine. Parce qu'il y a Natacha qui nous fait des signes désespérés.
Non, mais 2 minutes.
Alors j'ai 2 minutes.
Bon, bref, on conclut.
J'ai 2 minutes pour dire que finalement, quelle est la différence avec cette question sur l'adaptation des romans. Faut-il ou peut-on, je ne sais pas, mais j'y vois 2 choses. Il y a le film ou l'adaptation qui veut être une illustration. Oui. Et puis, il y a celle qui est une création. Quand on crée, quand on écrit, c'est toujours à partir de quelque chose. C'est toujours à partir du reste. dit quelquefois, l'écriture, c'est un patchwork entre des choses qu'on a vues, des choses qu'on a lues, des choses qu'on imagine, des choses qu'on rêve.
C'est une littérature collective.
Voilà, c'est une littérature collective, oui. Et il en va de même. Donc, si un roman peut donner envie à un créateur de créer, et qu'on y retrouve des choses, mais surtout que, finalement, la réussite, c'est quoi ? Je pense que c'est quand l'auteur lui-même prend plaisir à découvrir l'œuvre. Non pas avoir l'illustration de son œuvre en arrivant avec son bouquin à la main en disant « mais là, telle page, j'ai pas dit ça », mais qu'il découvre quelque chose. Et qu'à la fin, il se dise « mais ah ben, c'est tiré de... Oui, c'est vrai, il y a des choses, mais j'ai découvert quelque chose ». Il faut pour le spectateur qui a lu le livre, ou qui l'a pas lu peut-être, ce soit la même chose, qu'il découvre quelque chose.
Je peux rajouter, voilà. Si vous permettez, juste une phrase.
Natacha, la dernière seconde.
Juste une phrase, parce que ça rejoint, ça complète ce que tu viens de dire. André Bazin, qui a beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur l'adaptation, disait que l'adaptation d'un roman ou d'une œuvre devait être un être esthétique nouveau. Voilà, oui. Je pense que c'est...